Et donc la communication suivante, la transition est toute trouvée, puisque nous avons déjà un peu évoqué l'Angleterre avec Gentili, mais on va avoir ici une vision encore plus large, puisqu'il va être aussi très largement question d'Écosse, grâce à la communication de John Cairns, qui est professeur de droit civil à l'université d'Édimbourg, et qui va donc nous parler de Cujas et de l'ère britannique. Cher John, tu as la parole.
Merci Xavier. Je voudrais remercier la comité d'organisation et la comité scientifique pour ce colloque excellent et aussi les organisateurs pour l'invitation aimable. Pour l'exposition, j'ai préparé un texte descriptif qui examinait les attitudes britanniques envers Cujas et l'utilisation de ses œuvres. Maintenant, j'ai préféré considérer les matériaux dans une manière un peu différente. En effet, je crois que c'est possible de reconnaître au moins trois Cujas en la pensée britannique. Premier, c'est l'homme humaniste, maître de la doctrine juridique, de philologie et de l'histoire qui a influencé la discussion juridique, qui influence les praticiens aussi. Deuxième, c'est l'homme encore humaniste, mais dont la possession de ses livres servait à démontrer l'élégante érudition d'un juriste et gentilhomme. Troisième, c'est l'homme, bien sûr encore humaniste, mais qui servait de symbole d'opposition à la philosophie du droit naturel du XVIIIe siècle, le premier Cujas. En 1586, David McGill, fils aîné de l'avocat du roi écossais, était admis au barreau de la Cour civile suprême écossaise. Il a suivi ses études de droit en France, ce qui était la pratique de beaucoup des avocats écossais de son époque. La preuve de ses études se retrouve dans le procès-verbal des admissions des avocats. Ce qui est assez exceptionnel cependant, c'est que le diplôme de McGill et se vécu dans les archives de ses descendants, la famille de Dalrymple de Stair. Ce diplôme stipule que, le 21 juillet 1579, McGill, bachelier en droit civil, a été examiné par trois docteurs et professeurs de l'Université de Bourges, qui l'ont promu au grade de licencié en droit civil. Parmi ces examinateurs figure le nom de Jacques Cujas, un homme qui était alors au sommet de sa notoriété et qui a probablement été le premier à poser sa signature sur le parchemin. Cette anecdote concernant McGill est importante, car elle montre que pour les Britanniques, Cujas n'était pas simplement une présence intellectuelle, mais était connu comme un homme à part entière, même avec sa barbe. Par exemple, un autre de ses élèves écossais, Alexander Scott, juriste et philologue, servait comme conservateur des controverses de son maître, ainsi que rédacteur de ses œuvres complètes de 1606. Ceci témoigne bien de la popularité des études de droit en France par les Écossais, et on en déduit que d'autres étudiants comme McGill et Scott ont eu l'occasion de rencontrer Cujas, peut-être en Toulouse, par exemple. Il ne semble pas y avoir de recherches détaillées au sujet des étudiants anglais de droit en France à cette époque. Mais il y avait bien, comme par exemple Arthur Duck, 1580-1648. Ce dernier dit avoir suivi des classes en droit romain, enseigné les chaires les plus distinguées de France, d'Italie et d'Allemagne. C'est difficile de croire qu'il était le seul. Même sans le rencontrer en personne, Cujas avait une réelle présence pour les Britanniques. Ses livres se trouvaient sur les étagères des érudits et des exemplaires se retrouvent encore dans les anciennes bibliothèques britanniques, comme dans celles des universités écossaises et anglaises, et ainsi que quelques cathédrales anglaises, telles que Wells, Exeter et Canterbury. À titre d'exemple, en 1607, juste après la mort de Cujas, le poète écossais William Drummond de Hawthornden, était étudiant de droit à Bourges. Il a constitué une importante collection de livres, dont il a donné la plus grande partie à l'Université d'Édimbourg. Sa bibliothèque se composait principalement des livres de littérature, mais on y trouve un petit nombre de livres de droit à tendance humaniste, dont un certain nombre achetés à Bourges, qui contient quelques œuvres de Cuyas. Il est facile de comprendre l'acquisition des livres de Cuyas par les Écossais. Les avocats d'Édimbourg étaient normalement admis au barreau après une démonstration de connaissances détaillées de droit romain. En Angleterre, les universités d'Oxford et de Cambridge enseignent le droit romain et la détention d'un doctorat en droit était nécessaire pour l'admission comme avocat des cours des juridictions anglaises qui utilisent le droit romain, c'est-à-dire les juridictions d'Amirauté et de l'Église, ce qu'on appelle les cours de civil law. Ceci explique le nombre d'œuvres de Cuyas qu'on trouve dans les bibliothèques des universités et de leurs collèges, ainsi que dans les bibliothèques des cathédrales. La formation en Europe d'Arthur Duck explique probablement les références importantes de littérature de droit romain qu'il fait dans son livre, « De usu et autoritate juris civilis romanorum in dominiis principum Christianorum libri duo ». C'est une étude à orientation historique et son livre le plus important. Il y fait l'éloge des universités françaises, il le fait qu'elles requièrent l'obtention d'un diplôme en droit civil pour devenir avocat. C'était la même chose en Angleterre, il dit, pour l'admission au Doctors' Commons, le collège de praticiens au cours anglais de civil law. Les universités de Cambridge et d'Oxford étaient des centres de grande importance pour les études de latin et de grec. Il est donc probable que quelques œuvres de Cuyas ont été acquises pour l'étude de l'histoire des institutions du monde antique. Par exemple, le huguenot Isaac Casaubon, érudit renommé exilé en Angleterre, fait l'éloge de son travail dans ses études sur l'Historia Augusta. C'est vers la fin du XVIe siècle que l'on commence à remarquer l'impact direct du travail de Cuyas sur la pensée britannique. Bien que les styles de référence de l'époque rendent souvent difficile la source des citations d'œuvres spécifiques, son travail sur le droit féodal et son édition des Libri Feudorum étaient utilisés par beaucoup d'écrivains britanniques. Par exemple, l'Écossais Sir John Skene, 1549 à 1617, dans son livre De Verborum Significatione, l'utilise pour comprendre le mot breve et la disclamation d'un supérieur féodal. Ou encore, Duck le citait comme dans le chapitre dévoué au droit féodal dans son livre De usu et autoritate juris civilis romanorum. Thomas Craig, un avocat écossais formé en France, a bien examiné la pensée de Cuyas sur l'origine de la féodalité dans son livre important Jus Feudale. Dans cette étude, écrit au alentour de 1600, Craig s'interroge sur l'opinion de l'auteur français sur l'origine de la nature des fiefs. En Angleterre, à cette époque, on débat de politique et d'histoire en termes de droit féodal, et il n'est pas surprenant que le Glossarium Archaeologicum de Sir Henry Spelman commence son exposé en citant la définition de fief de Cuyas. J.G.A. Pocock prétendait que les Anglais ont basé leur compréhension de la féodalité sur les lectures d'écrivains français et écossais, dont Cuyas faisait partie. Cependant, certaines idées de Cuyas sur la loi féodale étaient assez controversées, mais ça, c'est une chose différente. Cuyas avait aussi une influence sur d'autres sujets. Craig a utilisé ses œuvres dans un travail sur le droit de succession au trône anglais. Sir Robert Spotswood, 1596 à 1646, un autre écossais formé au droit en France, citait souvent l'érudit français. Spotswood, dans ses Practics, publiées à titre posthume, faisait référence à ses titres du Digest et Observationes et Emendationes au sujet des FIF, Fiscus, Juridiction, Pacte, Prescription et Usucapio, ainsi que tuteur et curateur. L'anglais Duck, qui est contemporain de Spotswood, consultait et utilisait diversitude de cuillères dans son livre « De usu et autoritate, Juris civilis Romanorum ». Son œuvre traite de l'histoire du droit romain avant l'ère de Justinien, les livres de droit de Justinien et les droits romains après Justinien. Après 10 chapitres sur le droit féodal, le droit canonique et l'interprétation et l'opinion des docteurs, il concluait son premier livre en discutant l'autorité des judicatures. Le deuxième livre commence avec un récit sur les territoires de l'empereur romain, puis consacre quelques chapitres à l'usage et l'autorité du droit romain sur les territoires de l'empereur d'Allemagne, c'est des princes d'Italie, c'est des royaumes de Naples et de Sicile, France, Espagne, Portugal, Angleterre, Irlande, Écosse, Pologne, Hongrie, Danemark, Suède et Bohême. Duck conclut son étude avec une adresse au lecteur, absente de la traduction française de 1689. Ce n'était donc pas une surprise que Duck, dans son premier livre, citait l'édition du Codex Theodosianus par Cuyas et les paratitles du Digest, Observationes et Emendationes et autres œuvres de l'auteur français dans ses chapitres sur l'histoire. En effet, il cite même la description des Observationes par De Thou comme Opus Divinum et il conclut son éloge de l'étude du droit romain en France en notant que, parmi tous les juristes du siècle précédent, Cuyas était surnommé le prince des juristes, que l'étude du droit, lui, sera pour toujours redevable et que le monde n'avait jamais connu un juriste si distingué et si savant. Un grand éloge. Au milieu du XVIIe siècle, il est évident que Cuyas était un écrivain et penseur assez connu et régulièrement cité en Grande-Bretagne. Quelques Britanniques d'une génération précédente avaient suivi leurs études avec le maître, d'autres de la génération courante, tels que Sir George Mackenzie, étudiaient à Bourges, où le souvenir de Cuyas restait très présent. Mais il est plus probable que les Britanniques étaient conscients de sa pensée et qu'il était renommé grâce à ses livres, abondamment distribués par un commerce de livres européens très efficace et communément connu dans les éditions, diverses éditions complètes. On en retrouve d'ailleurs beaucoup d'allusions et des références. Je donne un exemple. En Écosse, le vicomte Stair, dans ses institutions de 1681, cite Cuyas sur Periculum en vente et la nature de la féodalité. Sir George Mackenzie, dans son livre de droit criminel, cite les paratitles ad codicem et ceux ad pandectas. Pour les avocats écossais visitant Bourges, Cuyas était la figure la plus importante de la ville. John Lauder de Fountainhall, étudiant de droit à Poitiers, a visité la ville en 1665. Il a décrit comme l'endroit où le renommé Cuyas a enseigné. Cependant, il raconte aussi l'histoire peu plausible que Cuyas avait la réputation d'être un ivrogne et sa fille une prostituée. Lauder ajoutait que l'université était célèbre pour les d'autres illustres hommes savants tels que Othman, Douarin et Vultéus. Mais pour Lauder, Cuyas restait le plus important de l'université et il possédait un bon nombre de ses œuvres. Mais cette anecdote qu'il a répétée lui montre que Cuyas est en train de devenir presque mythique comme homme. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est un homme dans son anecdotage. Le deuxième Cuyas. La bibliothèque des avocats d'Édimbourg a été officiellement fondée dans les années 1680. Le premier catalogue de cette bibliothèque, qui date de 1683, liste, premier, l'opera omnia de Cuyas, en 10 volumes par Fabro, donné par Sir George Mackenzie, doyen de la faculté des avocats, avocat du roi, et comme je dis, licencié du Bourges. Deuxième, l'Opera Omnia de 1606 par Scott. Et troisième, les Recitationes Solemnes de 1596, imprimé à Francfort. Pour une nouvelle bibliothèque visant à s'établir, les donations d'œuvres complètes étaient des acquisitions très désirables. En 1692, la bibliothèque des avocats comportait le 60e, c'est difficile, livre de Basilica dans l'édition de Hanovre de 1606, acquis afin de compléter la collection. Bien qu'il soit impossible d'en être certain en l'absence d'autres recherches, il est possible que la collection de la faculté des avocats était typique pour la Grande-Bretagne de cette ère. Des recherches dans le catalogue électronique des bibliothèques britanniques révèlent la présence de nombreux exemplaires d'éditions variées des œuvres complètes de Cuyas. On trouve notamment des exemplaires de ses paratitles du Digeste et du Codex, de son édition du Codex Theodosianus, de ses observationes et de ses recitationes, ce qui suggère une popularité semblable. Mais ceci n'est qu'une mesure rudimentaire, puisque la date d'acquisition par les bibliothèques est souvent obscure. Sous l'influence d'œuvres de Gabriel Naudet, des nobles et gentilshommes britanniques collectionnaient, à cette époque, des bibliothèques privées. Bibliothèques souvent assez grandes. Quelques-unes de ces bibliothèques démontraient un intérêt en éditions rares et valables. À titre d'exemple, le coffret de livres de Cuyas à Bickling Hall, à Norfolk, en Angleterre, a été acquis par le bibliophile Sir Richard Ellis, car ils ont été imprimés par Robert Etienne, un imprimeur parisien très renommé. En réalité, quelques-uns de ces volumes ont été acquis au XVIIIe siècle. Ils proviennent de la bibliothèque du bibliophile français Jean Bouillet. Le marché en cette espèce de livre est vraiment européen. Charles Spencer, troisième comte de Sunderland, était bibliophile obsessif. Mais ce n'est que pas seulement les livres de valeur provenant d'une imprimerie d'importance qu'il cherchait, mais les livres de droit humaniste, s'appuyant sur l'aide du bibliophile écossais Alexander Cunningham, qui a passé la plupart de sa vie aux Pays-Bas. À cette époque, il devenait assez rare qu'un Écossais suive ses études de droit en France. Il était alors plus normal pour eux d'étudier aux Pays-Bas. Cependant, ce changement de pratique n'a pas atténué l'intérêt pour la pensée de Cuyas. Il est même possible qu'il la revigorât, puisque cette époque fut l'apogée de l'école élégante de droit romain en Hollande, qu'elle se considérait comme héritière des leçons des humanistes français du XVIe siècle. L'humanisme juridique influençait même les juristes qui ne s'intéressent pas dans les approches historiques ou philologiques du droit. On en veut pour preuve qu'on retrouve dans les bibliothèques des avocats écossais les œuvres des érudits humanistes, très connus comme Boudet et Assia, des exemplaires précieux de l'édition du Codex Florentinus imprimé par les Torelli en 1553, et bien sûr les livres de Cuyas. Il semble improbable que les hommes qui collectionnaient ces volumes possèdent les désirs de poursuivre des études sophistiquées sur ces textes. Par exemple, Charles Erskine of Tynwald, 1680 à 1763, professeur royal de droit public et des droits de nature et des nations à l'Université d'Édimbourg, mais plutôt avocat et politicien qui enseigne, enseignant et chercheur, possédait plusieurs œuvres de Cuyas, y compris deux exemplaires différents de ses Opera Omnia. Alexander Bain, professeur de droit écossais à Édimbourg, était propriétaire de ses Opera Omnia. La bibliothèque énorme d'Alexander Fletcher de Saltoun contenait plusieurs œuvres de Cuyas. Des autres exemplaires sont les bibliothèques de New Hills et Alva. Ces collections montrent bien les valeurs et aspirations des collectionneurs. et une tendance à s'identifier avec l'érudition humaniste et élégante, une érudition dont Cuyas constituait un symbole significatif. Le troisième, Cuyas. Il semble que l'intérêt britannique pour Cuyas diminua au cours du XVIIIe siècle, même si plus de recherches seraient nécessaires pour en être sûr. Cependant, il semble qu'aucun individu ni bibliothèque n'ont acquis les nouvelles éditions italiennes de ses œuvres complètes lors de ce siècle, bien qu'elles soient trouvées dans les bibliothèques au XIXe siècle, mais pas dans les bibliothèques du XVIIIe siècle. Il semble aussi que ces livres disparaissent des catalogues, des libraires et des ventes aux enchères. Mais il est important de noter qu'aucune recherche détaillée n'était possible. Mais Cuyas continue d'être cité dans la jurisprudence écossaise. En 1712, on s'appuie sur une de ses corrections d'un texte du Digeste. Et ses opinions sur le périculum continuent d'être d'intérêt. Il est clair que les avocats écossais continuaient d'utiliser ces emendationes et observationes et que son nom était aussi connu grâce à la popularité de l'édition de Van Leuven du Corpus Juris Civilis. En 1807, Alexander Fraser Tytler, juge écossais, fait une remarque intéressante. Il affirme que de nos jours, on considère les citations d'Acours, Bartol, Alcia, Cuyas, Suésius, etc., par juge ou avocat comme le signe d'être tatillon, bien qu'autrefois ces noms étaient sans cesse dans les bouches des juges et des avocats. Il est possible que Fraser Tytler avait raison en ce qui concerne les cours. Mais Cuyas avait déjà commencé d'avoir une nouvelle vie en Écosse et un peu après en Angleterre aussi. Ce ravivement n'est pas simplement dû à l'école historique allemande de Hugo et Savigny et son affirmation consciente de son image que Cuyas était un prédécesseur. Par exemple, avant que les Britanniques ne deviennent sensibles à l'école allemande, John Wilde, professeur de droit civil à l'Université d'Edimbourg, enseigne dans ses classes dans les années 1790 que l'étude du droit romain était tombée. Il pensait que la cause de ces problèmes était l'essor du droit naturel et il affirmait la nécessité d'une vraie enquête sur l'histoire du droit. Il insistait sur l'importance des humanistes, en particulier Cuyas, qu'il identifiait comme le plus grand juriste de l'époque moderne. Wilde considérait que les humanistes liaient le droit avec l'histoire et la raison, pas la raison abstraite du droit naturel, mais ratio juris. Mais je crois que les érudits avaient toujours tendance de créer le Cuyas qu'ils voulaient. Je terminerai mon intervention par quelques remarques. Si l'influence de l'école historique d'Allemagne a eu pour effet d'entretenir la réputation du nom de Cuyas en Angleterre ainsi qu'en Écosse au cours du XIXe siècle, et malgré l'opinion de Fraser Tytler, les avocats écossais continuait de citer Cuyas de temps en temps dans les cours. Le premier Cuyas est encore vivant. On le cite par exemple dans Dominus Litis, Periculum en vente, récompense, droit de pêche et mariage. Et comme c'est possible à voir dans l'exposition, et en 1911, un juge écossais prétendait qu'une opinion de Cuyas était irréfutable. Une bonne opinion. Je vous remercie pour votre attention et veuillez pardonner mon français affreux.